Bonjour amis auditeurs de Radio Grand Ciel, bienvenue dans notre émission consacrée à l'art, l'histoire et l'iconographie. Aujourd'hui nous allons parler du XVIe siècle car j'ai le plaisir d'avoir avec moi dans le studio Nicolas Balsamo, bonjour.
Bonjour.
Qui vient de publier un magnifique livre, Chartres et les Chartrains du XVIe siècle, la vie de Jean Bouvard, bourgeois chartrain du XVIe siècle, d'après son journal, de 1521 à 1561. Alors, je vous présente Nicolas Balsamo. Il est actuellement doctorant en histoire à l'École pratique des hautes études à Paris. Et il a auparavant publié un mémoire de maîtrise à l'Université Paris 4 Sorbonne en 2004 avec ce magnifique titre « À l'assaut de la citadelle sacrée, Chartres et le protestantisme vers 1520 et 1570 ». Mais aujourd'hui, nous allons nous limiter à parler de ce sergent royal qu'était Jean Bouvard, auteur de ce journal qui est l'objet de notre émission. Je vous laisse la parole pour présenter peut-être l'histoire du manuscrit et l'auteur du journal.
Effectivement, parce que avant de parler du contenu, il faut parler du contenant, parce que les manuscrits ont une histoire souvent compliquée, et celui-ci particulièrement. Il s'agit d'un journal qu'a tenu un sergent du roi, Jean Bouvard, qu'il a tenu pendant près de 40 ans, exactement d'ailleurs entre 1521 et 1561. Le problème, c'est que le journal n'est jamais parvenu jusqu'à nous sous sa forme originale. Le vrai manuscrit, celui sur lequel le sergent écrivait quelque chose tous les jours ou toutes les semaines ou tous les mois, ce manuscrit-là, nous l'avons perdu. Une copie avait été faite au XVIIIe siècle par l'un de ses descendants. Et cette copie a existé jusqu'à assez récemment. Elle était conservée à la bibliothèque municipale de Chartres. Jusqu'à un événement malheureusement bien connu par chez nous, le bombardement de la bibliothèque le 26 juin 1944. Et cette copie a disparu. Heureusement, des érudits chartrains du 19e siècle avaient fait des copies de la copie, deux copies en fait, faites au milieu du 19e siècle, qui ont permis à ce texte de ne pas disparaître.
Donc, entre autres, Lucien Merlet, bien connu de tous les chartrains.
Voilà, l'archiviste, l'ancien archiviste du département, Lucien Merlet, et un autre érudit local qui est beaucoup moins connu, mais important aussi, Adolphe Lecoq, qui a fait un immense ensemble de copies. La bibliothèque conserve, je crois, une quarantaine de volumes, et il a vraiment contribué à sauver beaucoup de pièces importantes de notre passé.
Alors, vous dites que Jean Bouvard était un sergent royal. Quel était donc le statut ou quelles étaient les fonctions d'un sergent royal à cette époque-là, au début du XVIe siècle ?
Alors, la fonction, elle est assez difficile à déterminer parce que, à l'époque, le personnel royal était beaucoup moins nombreux qu'aujourd'hui et par conséquent, il y avait moins de spécialisation. Aujourd'hui, sergent royal, cela correspondrait à quelque chose comme à la fois un gardien de la paix, un CRS et en même temps un officier de police judiciaire. Voilà, il faisait vraiment beaucoup de choses parce que le personnel du roi de France se comptait seulement quelques milliers de personnes. Par conséquent, il y avait toute une série de tâches à accomplir.
Et vous éditez d'ailleurs en première de votre livre une petite image extraite des trois morts et des trois vifs pour, où on voit la mort saisir un sergent royal habillé de façon très colorée. Est-ce que c'était là l'habit des sergents royaux à l'époque ?
Il n'avait pas d'uniforme à proprement parler. L'uniforme ne viendra que beaucoup plus tard, une fois dans le XVIIe siècle. Mais ils avaient un certain nombre de signes distinctifs qui les rendaient reconnaissables. Est-ce qu'il était toujours aussi coloré ? Ça, son habillement, je ne peux pas vous le dire. C'est qu'en fait, il s'agit d'une danse macabre, d'un très bel exemplaire de danse macabre qui avait été destiné au roi Charles VIII à la fin du XVe siècle. Et du coup, évidemment, les couleurs du manuscrit sont éclatantes. Personnellement, je pense que Jean Bouvard ne devait pas s'habiller tous les jours comme ça.
Mais n'oublions pas que le Moyen-Âge, et nous sommes à la fin du Moyen-Âge, même si la Renaissance commence à percer. Ma Renaissance, c'est d'ailleurs un terme très récent, c'est Michelet qui a désigné sous ce vocable l'humanisme naissant. Le Moyen-Âge aimait la couleur. Donc il est certain que l'environnement dans lequel vivait Jean Bouvard était sans doute beaucoup plus marqué par la couleur que la ville ne l'est aujourd'hui.
Oui, évidemment, c'est vrai que le grand mouvement d'austérité, il ne date pas du Moyen-Âge. Hein. Les bourgeois habillés de noir, ça sera beaucoup plus tard.
C'est le protestantisme qui va être chronoclaste.
Oui, alors qu'effectivement, un bourgeois, c'est quelqu'un qui a de l'argent, et quand on a de l'argent, on essaie de le montrer. Et c'est pour ça qu'à l'époque, par exemple, sont souvent promulguées ce qu'on appelle des lois somptuaires qui interdisent aux bourgeois et surtout à leurs femmes de s'habiller de manière trop riche pour qu'on ne les confonde pas avec les femmes de la noblesse.
Et là, nous voilà déjà dans la vie des gens au XVIe siècle, ce qui est évidemment ce qui est beau dans votre livre, car nous avons l'impression de plonger dans cette époque-là où vivait le sergent royal. D'ailleurs, vous citez Madeleine Foisil qui dit qu'il y a un rapport si étroit du vécu à l'écrit que par la lecture de ce document, on a l'impression d'entrer physiquement dans le paysage du XVIe. C'est ça qui est très intéressant pour les gens qui s'intéressent à l'histoire. Alors, donc vous avez dit que l'original est perdu, vous retracez dans le livre un peu l'histoire du manuscrit qui va passer de père en fils.
Oui, parce que souvent ces manuscrits, ils sont véritablement des manuscrits de famille. On note la naissance des enfants, éventuellement le veuvage, le remariage, et puis ensuite, tout très logiquement, ce sont les enfants qui récupèrent le manuscrit. Et par exemple, dans celui qui nous occupe, il y a une notice consacrée à la mort du chroniqueur Jean Bouvard qui est ajoutée par son fils. Et effectivement, le manuscrit est resté dans la famille de Jean Bouvard pendant quasiment deux siècles, jusqu'à la fin du 18e, en fait.
Voilà, et puis à la fin, 300 ans après, cette famille qui descend d'un laboureur. D'ailleurs, il est natif d'où, Jean Bouvard ? Vous le
Alors,
dites
La famille est originaire de Damary. Effectivement, c'est un bel exemple d'ascension sociale, nous aurons peut-être l'occasion d'en reparler tout à l'heure, qui voit une famille de paysans assez aisés, parce que laboureur, c'est déjà quelqu'un qui est un tout petit peu au-dessus du lot, mais qui va voir une fantastique ascension sociale, une ascension sociale qui va être très longue. Hein. Ils vont mettre plus de deux siècles, mais enfin, elle va réussir.
Oui, puisqu'un descendant va être anobli par Louis XV.
Effectivement, un des descendants de notre sergent va être un médecin très célèbre. On lui proposera même la charge de médecin auprès de Louis XV. Il la refusera, mais il sera quand même anobli.
Voilà, sur cette histoire de l'introduction de ce livre, nous allons écouter un petit extrait de la Missa Pape Marcelli, le Kyrie, de cette messe composée par Palestrina en l'honneur de Marcel II. Après ce magnifique Kyrie, un extrait de la Missa Pape Marcelli et de Père Palestrina qui nous plonge au début du XVIe siècle, l'époque où vivait le sergent Bouvard, qui est aujourd'hui le personnage principal dont je parle aujourd'hui avec Nicolas Balsamo, qui est d'ailleurs un enfant chartrain. Son père enseigne au lycée Fulbert pour les chartrains. Sa mère est traductrice polyglotte. Donc nous parlons d'un journal écrit par Jean Bouvard qui est né en 1490 à Damary, un petit village situé non loin de Chartres. Il est sergent royal, comme son père l'était au bailliage de Chartres. Et là, nous allons entrer dans les trois cercles de sa vie qui sont le cercle de la famille, de la ville et du royaume, mais aussi lié à la famille, le cercle de la paroisse. Donc nous écoutons Nicolas Balsamo.
Alors effectivement, commençons par la famille parce que c'est une époque où l'homme n'est jamais seul. On se plaint, il y a beaucoup de discussions aujourd'hui autour du problème du lien social, de la place de la famille. Effectivement, quoi qu'on pense de la situation actuelle, il se trouve qu'au XVIe siècle, la famille tenait une place beaucoup plus importante qu'aujourd'hui parce que c'était à la fois, d'une part, les structures sociales faisaient que souvent on exerçait le même métier que son père. À la campagne, on reprenait la parcelle familiale et en ville, souvent, on reprenait le métier paternel. Dans le cas de Jean Bouvard, c'est un bon exemple puisque son père était sergent du roi, donc une sorte de policier si l'on veut, et Jean Bouvard lui-même va devenir sergent du roi puisqu'il s'agit d'une charge, non pas comme d'un métier aujourd'hui, c'est-à-dire il faut s'imaginer que c'est un droit que l'on achète. Comme si aujourd'hui, au lieu de passer le concours de lieutenant de police, on versait une somme à l'État pour avoir le droit de l'exercer. Donc avant tout, la famille. Bouvard est issu d'une vieille famille. Il a lui-même fondé une famille importante puisqu'il a eu près de 12 enfants au moins, parce qu'on n'est pas renseigné très précisément. Il y a des lacunes malheureusement dans le journal. Et une bonne partie de son journal est justement consacrée aux événements familiaux, les naissances, les décès aussi, parce qu'un certain nombre d'enfants meurent en bas âge. L'espérance de vie à l'époque et surtout la mortalité infantile étant considérable. Le baptême qui tient une place très importante. C'est vraiment une deuxième naissance, le baptême, pour les chrétiens de l'époque, puisque cela dénote l'entrée d'un nouvel individu dans la communauté.
Donc en général, on les baptisait dans la foulée.
On essayait de les baptiser tout de suite, le plus rapidement possible, pas comme aujourd'hui où parfois on peut attendre plusieurs mois, voire un an, tout simplement parce que la vie d'un nourrisson est très fragile et qu'à l'époque, on considérait que s'il n'était pas baptisé immédiatement, il allait dans les limbes. Par conséquent, ils sont baptisés quasiment le jour même, hein, en général en moins de 24 heures.
Alors, où est-ce que le sergent royal, qui habite l'étable au vin, pour les Chartrains, une place très connue où se tenait le marché au vin, quelle était sa paroisse ?
Alors, sa paroisse était une paroisse que nous connaissons mal, parce que l'église elle-même a disparu. Il s'agit de la paroisse Saint-Michel, qui regroupait, enfin aujourd'hui, ça serait l'espace qui s'étend entre l'église Saint-Aignan et l'ancienne bibliothèque municipale. C'est une toute petite paroisse, elle était assez mal située, elle était coincée contre le mur de la ville, l'église était petite, mais enfin c'était sa paroisse, il l'aimait beaucoup, il en parle beaucoup. La paroisse à l'époque c'est tout un monde, c'est le monde vraiment de la sociabilité quotidienne. L'essentiel de ses amis, de ses parrains, parce qu'il a beaucoup de parrains, étant donné qu'il a beaucoup d'enfants, proviennent quasiment toujours de cette même paroisse. C'est vraiment le monde qu'il connaît le mieux. C'est un monde aussi qui a un centre. Ce centre, évidemment, c'est l'église paroissiale, dans laquelle non seulement a lieu le culte dominical, mais aussi dans lequel donc, on baptise tous ses enfants, et dans lequel il va finir par être enterré, puisqu'à l'époque, les personnes qui avaient un statut social à peu près honorable arrivaient à se faire enterrer à l'intérieur des églises.
Oui, mais vous dites que son caveau familial ne se trouvait à l'intérieur de l'église parce qu'on a agrandi à un moment donné l'église, ce qui a fait que le caveau, au miracle, se trouvait à l'intérieur de l'église. Ascension sociale par parce que agrandissement de l'église.
Parce que nous sommes effectivement dans un monde où la place des morts aussi indique celle des vivants.
Oui, le cimetière était toujours à côté des églises, ce qui est le cas à Saint-Aignan. Mais c'est vrai qu'à Saint-Aignan, seulement les riches bourgeois pouvaient, ou les notables pouvaient se faire enterrer à l'intérieur de l'église. Alors, vous avez rappelé donc l'église Saint-Michel, mais elle n'existe plus. Elle a disparu
à la Révolution, oui.
Comme beaucoup d'autres églises et chapelles qui marquaient la vie et rythmaient la vie des citadins à cette époque-là. Et si vous dites que cette église se trouvait contre l'enceinte de la ville, qui se situe non loin de l'ancienne bibliothèque municipale, c'est ce qui veut dire que Chartres n'était pas très grand en extension à l'époque. Et donc, dans ce petit cercle, il y avait l'église Saint-Michel, Saint-Aignan, à quelques pas, et une troisième église, Saint-Saturnin.
Saint-Saturnin. Au total, effectivement, Chartres comptait à l'époque 11 paroisses pour une ville qui comptait environ, on va dire, 10 à 12 000 habitants à l'époque qui nous concerne, c'est-à-dire dans la première moitié du XVIe siècle.
Mais il y avait presque une quarantaine d'églises et de chapelles.
Oui, oui, oui.
Beaucoup ont disparu, ont été transformées.
Était beaucoup plus grande
qu'aujourd'hui. Voilà, donc, on parle, ou le sergent notifie donc dans son journal les baptêmes, les naissances de ses 12 enfants, les décès. Et là, il va aussi parler donc de l'enterrement en avant de l'église, dans le caveau familial. À quelle autre occasion va-t-il évoquer sa paroisse ?
Ensuite, il va parler de la paroisse. Il ne parle en fait pas beaucoup, par exemple, des messes qui sont célébrées, parce que ce ne sont pas des messes très voyantes, de très belles célébrations. En général, quand il va parler des messes, ce sont plutôt celles qui ont lieu à la cathédrale. Non, la paroisse, ça reste vraiment, elle est confondue avec l'univers familial quasiment, parce que tous ses enfants habitent dans la paroisse, son père a habité au même endroit, ses voisins, ce sont aussi ses parrains. On a un document qui est un document fiscal, en fait, qui nous permet de reconstituer un peu le cadastre de l'époque, et où on voit que les personnes qu'il nomme étaient vraiment habitées à un jet de pierre de chez lui. C'est-à-dire qu'on a parfois l'impression, quand on le lit, qu'il ne sort quasiment jamais de ce tout petit espace, comme si nous, aujourd'hui, nous ne sortions jamais du quartier où nous habitons.
Il en sort pour les processions qui sont organisées par les curés de la cathédrale.
Voilà, ça nous allons bientôt en parler. Mmh. Et l'autre espace qu'il connaît réellement, c'est celui de la ville. Le reste, le royaume de France, qui est pourtant une réalité politique à l'époque, et on a l'impression qu'il ne le connaît que par ouï-dire. Il faut bien garder à l'esprit que, à l'époque, les cartes étaient très rares, et pour un homme du XVIe siècle, l'idée d'hexagone, qui d'ailleurs n'était pas encore tout à fait un hexagone à l'époque, cela ne disait pas grand-chose. Et lorsqu'on lit Bouvard, on voit bien qu'il y a un point auquel il s'attache, c'est Chartres, et que tout le reste est dans un certain flou géographique, plus ou moins grand et plutôt grand que petit.
Bah, il est très fier de son pays, c'est de la ville, puisqu'il dit à un moment donné, quand il marie sa fille, « Je lui donnais une dot digne d'une fille de Chartres ».
Voilà, il y a effectivement un très fort sentiment, qu'on peut appeler autarcique si on veut être péjoratif, mais qui est vraiment un très fort sentiment de solidarité et de fierté urbaine. C'est un sentiment très ancien, qui est en fait antérieur au sentiment patriotique qui sera celui de l'époque moderne, et dont Bouvard est un parfait représentant. Il est fier avant tout d'être chartrain. En fait, on verra également qu'il est fier d'appartenir au royaume de France. Pas d'être français au sens d'une communauté linguistique ou ethnique, ça pas du tout. C'est quelque chose qu'il ne connaît pas tout simplement,
ça n'existe pas encore.
Réalité pour lui.
Voilà,
par
ça
contre,
n'existe pas encore.
Il est vraiment fier d'être un sujet du roi de France. Mais avant cela, il est d'abord fier d'être chartrain et effectivement, lorsqu'il donne une dot à sa fille, il souligne qu'une fille de Chartres doit être bien dotée, mieux qu'ailleurs.
Donc, un microcosme dans lequel vit notre cher sergent. Et nous avons dit qu'il allait à l'église, en fait, à Saint-Michel, à quelques pas de sa maison, que l'on peut voir aujourd'hui encore. Nous pensons que le numéro 8,
disons être sa maison. Alors, disons qu'elle est située à l'emplacement où vivait Jean Bouvard. Est-ce que c'est vraiment cette maison-là qu'il habitait? Ça, on n'en sait rien.
Elle a l'air fort ancienne.
Et c'est vrai qu'il y a des colombages.
Donc rêvons, et disons-nous, l'auteur de ce magnifique journal passait ses jours avec ses enfants et son épouse Guillemine Estienne. On va peut-être en parler tout à l'heure après une petite pause musicale. Un Gloria de la Missa Brevis de Palestrina. Chers amis de Radio Grand Ciel, à nouveau dans le studio avec moi Nicolas Balsamo, avec qui je parle de Chartres et les Chartrains du XVIe siècle. Nous parlions du sergent royal Jean Bouvard, qui est l'auteur de ce magnifique livre qui vient d'être édité par la Société archéologique de Ré-Loire. Pour tous les érudits, pour tous les gens férus de l'histoire, qui aiment Chartres, son histoire, ce livre est incontournable. Ça sera un beau cadeau à faire. Donc nous étions en train de parler de la vie de tous les jours de ce sergent royal qui consignait les naissances, les baptêmes, les décès, mais aussi les mariages dans son journal qu'il tenait non pas au jour le jour.
Non, il n'écrivait quand même pas chaque jour. On a des journaux de cette époque où vraiment on a des notations quotidiennes. Là, ce n'est pas le cas puisque le journal, dans son édition actuelle, fait environ 150 pages pour 40 ans, ce qui en fait n'est pas beaucoup. Mais effectivement, il notait soit les événements vraiment marquants de sa vie familiale, les naissances essentiellement, puisqu'il a eu près de au moins 12 enfants, soit des événements marquants pour la communauté à laquelle il appartient, c'est-à-dire la ville, que sont, par exemple, les épidémies, puisque c'est comme ça que commence le journal. Il commence sur la notice consacrée à son mariage, et il se marie non pas à Chartres, alors qu'il y habite déjà, mais il se marie à Damary. Pourquoi ? Eh bien, parce qu'il nous explique qu'à ce moment-là, la peste ravageait Chartres, et face à la peste, il sait que, comme tout le monde, le meilleur moyen, c'est de fuir. La peste ne poursuit pas le fugitif. Alors, on a souvent eu tendance à dire que le Moyen-Âge, et là nous sommes en réalité encore dans un monde qui est un monde médiéval, c'est une époque qu'on a souvent caractérisée avec les famines, les pestes, etc. Bon, c'est pas tout à fait exact, mais enfin, toujours est-il que la vie telle qu'on la voit apparaître à travers ce journal est quand même une vie difficile. Effectivement, elle est faite d'une part d'épidémies. Il y a souvent, la peste est endémique à l'époque, ce n'est plus la peste noire du XIVe siècle qui raye de la carte le tiers de la population, mais enfin, c'est quand même une maladie récurrente qui provoque beaucoup de décès. C'est aussi un temps qui voit des disettes, parfois même des famines. Notre chroniqueur, lui, ne craint pas la faim parce qu'il est suffisamment haut placé, il n'est pas spécialement riche, mais enfin, la faim ne le menace pas. Mais, comme tous les gens de son époque, même lorsqu'il n'a aucun problème d'approvisionnement lui-même, il note toujours systématiquement chaque année le prix des grains, et lorsque les choses vont mal, eh bien, il le dit.
On ne craignait pas la disette vraiment, parce que, enfin, il pouvait avoir une mauvaise récolte, mais il y avait l'obligation de la charité. Donc ceux qui en avaient se devaient de partager avec les pauvres, puisqu'il y a cette obligation de partager avec les pauvres.
Oui, alors ensuite, le problème, c'est que, comme toujours, il y a quand même une différence entre la théorie et la pratique. Il se trouve qu'à l'époque où écrivait Jean Bouvard, il y a eu un changement considérable dans les structures d'assistance que Jean Bouvard a évoqué, il y a consacré une notice, qui est la création, en 1556, d'un bureau des pauvres, qui est en fait l'unification de tous les anciens hospices qui dépendaient des paroisses, puisque tous les hospices toutes les institutions charitables à l'époque médiévale étaient des institutions religieuses. Et en 1556, on décide de les réunir, d'en faire un seul grand hospice, et aussi d'une certaine manière de les laïciser, c'est-à-dire d'en transmettre la gestion à la ville.
Et aux échevins, donc beaucoup avaient déjà basculé vers l'hérésie, le protestantisme, donc ils voulaient...
Il y a effectivement une dimension un peu de lutte contre le pouvoir ecclésiastique à l'époque. Disons que la politique s'invite ce qui ne rend pas la politique plus efficace pour autant, parce qu'en fait, ce bureau des pauvres, finalement, n'aura pas été peut-être une si bonne invention que ça pour les miséreux, mais enfin.
Oui, il ne marchera peut-être jamais parce qu'il y a trop de pourparlers pour savoir qui fera quoi. Et puis, autre grande préoccupation, le vin, la vigne. Il parle plusieurs fois de gel, de neige en avril, et dit par la grâce de Dieu, les vignes n'ont pas gelé. Donc le vin joue un très grand rôle.
Oui, le vin joue un rôle, tout simplement parce que autour de Chartres, les alentours étaient couverts de vignes à l'époque. Ils produisaient du vin qui ne devait pas être très bon, mais enfin, toujours est-il que ce vin-là suffisait à la consommation locale, puisqu'il fallait vraiment être assez riche pour pouvoir se permettre de faire venir, par exemple, du vin de Bourgogne. Et comme ce vin se vendait place de l'étape au vin, d'où son nom, Bouvard y prête beaucoup d'attention, il note les cours du vin. Le vin, c'est un produit à l'époque très important, on en consomme près d'un litre par jour en ville. C'est un vin un peu moins alcoolisé qu'aujourd'hui, tout simplement parce que c'est un apport de calories tout à fait très important, et d'autre part parce que l'eau des puits à l'époque est souvent douteuse, et que si on ne veut pas avoir des ennuis, il vaut mieux boire le moins d'eau possible.
C'est vrai que l'eau de l'Eure ne devait pas être consommable avec les métiers de la rivière.
Oui, surtout les écorcheurs, les tanneurs, etc.
Oui, donc le vin, oui, comme vous dites, le marché au vin se déroulait sous ses yeux, puisqu'il habite
sous ses fenêtres, littéralement.
Alors là, le marché du blé se déroule pas loin de là où habite le sergent.
Oui, c'est la halle aux grains. Là, c'est vraiment le marché, c'est vraiment le baromètre vital pour la ville, hein, quasiment un baromètre social. Et le marchand note chaque année les prix du blé au moment de la récolte. Enfin, il y a une dernière chose, un dernier danger, ce sont les opérations militaires. On a souvent tendance à voir dans la Renaissance l'époque des guerres d'Italie. Le problème, c'est que les guerres d'Italie ont aussi pour théâtre la France, puisque les guerres d'Italie opposent, surtout dans leur deuxième partie, le roi de France, François Ier, à Charles Quint, et que Charles Quint, très souvent, contre-attaque dans le nord de la France avec des invasions de la Picardie, de l'Artois, et que parfois des bandes armées poussent quasiment jusque dans la Beauce, et tout ça cause beaucoup de problèmes, parce qu'évidemment, les soldats, à cette époque-là, comme toujours, en général, se vengent sur les populations civiles.
Ce qui expliquerait un peu le côté très défensif des fermes beauceronnes.
Oui, bien sûr, parce qu'à l'époque, si vous ne vous protégez pas, personne ne vous aidera.
D'ailleurs, le sergent va noter dans son journal la captivité de François Ier, qui va séjourner un petit temps en Espagne.
Oui, c'est l'un des grands événements. Le sergent est obligé de les noter. Il va noter pareillement la mort de Henri II en tournoi en 1559. Ces grands événements de la vie politique, il les note forcément parce qu'on sent qu'il est concerné. Et c'est pour ça que si on a mis l'accent tout à l'heure sur son sentiment d'appartenance à une communauté citadine avant tout, il ne faut pas oublier qu'il fait preuve d'un proto-patriotisme. Effectivement, il est attaché non pas à l'idée ou à la réalité de l'Hexagone, mais plutôt à la personne de son roi. On voit qu'effectivement, pour lui, la captivité du roi de France, il la considère véritablement comme une catastrophe.
Ce n'est pas une catastrophe pour les Espagnols, parce que comme François Ier va faire venir ses propres musiciens en Espagne, il va y avoir entre les organistes espagnols et les organistes français du contact fructueux. Je pense que pour le plus grand bonheur de la musique de l'orgue. Alors, le roi, grande préoccupation, il va d'ailleurs consacrer plusieurs lignes chaque fois qu'il y a un événement concernant les différents rois. Henri II, vous en avez parlé, c'est presque une page.
Bien sûr.
Dans votre livre.
Il note aussi la naissance des enfants du roi, car là, ça donne lieu à des festivités dans tout le royaume. Il note également les rares rencontres avec le roi à l'occasion des entrées royales. C'est le cas, par exemple, en 1532, lorsque le roi entre à Chartres, et les entrées royales à l'époque donnent lieu à des cérémonies magnifiques. C'est une manière pour la ville de se mettre en scène, de montrer son adhésion à la royauté en général et à ce roi-là en particulier. Et il y a un protocole très précis, tous les habitants sont convoqués, mais de toute façon, ils viendraient de bon cœur, après, on pense. Ils sont convoqués, ils doivent mettre leurs plus beaux habits, les rues sont nettoyées, tout est fait pour que le roi entre vraiment dans une ville modèle, pour que la ville prouve son attachement au roi.
Voilà, et puis les sergents vont noter que le jour de l'entrée du roi, il va pleuvoir beaucoup. Que vont faire les bourgeois bien habillés?
Oui, ils se réfugient parce qu'ils ont peur de gâcher leurs habits, donc ils se réfugient un peu partout. Et le roi entre dans une ville déserte, à la honte des Chartrains, comme dit Bouvard.
Voilà, chers amis auditeurs de Radio Grand Ciel, vous avez vu cette lecture, va vous apporter beaucoup. Il y a des passages qui nous inspirent aujourd'hui encore le sourire, malgré les difficultés que devaient ressentir les citadins de Chartres au XVIe siècle. Nous n'avons pas du tout parlé de l'hérésie qui va s'installer aussi dans la bonne ville de Chartres, mais vous avez donc fait un mémoire de maîtrise à l'assaut de la citadelle sacrée Chartres et le protestantisme. Sans doute, cher Nicolas Balsamo, nous aurons le temps d'en reparler dans une autre émission. Au revoir, merci beaucoup.
Au revoir.